Chapitre 60. Dans la pénombre, Nietzsche avait pris place sur le banc de pierre creusé à même la muraille de la cellule. La pièce extérieure, un tampon entre la geôle et le monde extérieur, était protégée par un champ de force. Pour entrer ou sortir, il fallait accéder aux lourdes portes de fer. En d'autres termes, il était obligatoire de traverser le champ de force en question. Cette cellule très spéciale était réservée aux prisonniers les plus dangereux. Des pratiquants de la magie, bien entendu. Combien de gens y avaient attendu leur rendez-vous avec la mort ou la torture? Nietzsche l'ignorait, mais ils devaient être très nombreux. Des bruits de pas de l'autre côté de la porte principale lui apprirent qu'on venait lui rendre visite. C'était prévu depuis le début. D'un calme souverain, Nietzsche savait parfaitement pourquoi Richard avait demandé à Nathan de la faire enfermer dans cette cellule bien particulière. Avec d'atroces grincements, la porte principale s'ouvrit, laissant passer le visiteur que l'ancienne maîtresse de la mort attendait. Quand des ombres occultèrent le minuscule Judas de la seconde porte, celle de la cellule elle-même, la magicienne souffla la flamme de la lampe posée à côté d'elle. Le verrou de sa geôle s'ouvrit avec un claquement métallique qui fit sursauter Nietzsche après tellement de temps passé dans un silence de mort. À la lumière d'une lampe, l'empereur Jagang entra dans la geôle où l'attendait le trophée qui lui tenait le plus à cœur. Pour mettre ses muscles en valeur, le tyran portait une de ses vestes sans manches favorites. Alors que la lumière de la lampe se reflétait sur son crâne lisse, Nietzsche vit des ombres s'animer dans son regard uniformément noir. Pour détourner l'attention de son bourreau, elle avait pris soin de déboutonner le haut de sa robe et sa ruse fonctionnait à merveille.
« J'ai rêvé de toi, ma petite chérie !» annonça Jagang.
Croyait-il impressionner sa victime? Depuis toujours, il pensait que son désir sauvage flattait Nietzsche, comme si elle avait vu dans sa lubricité un fervent hommage à sa beauté et à sa délicatesse. Pour l'ancienne maîtresse de la mort, c'était simplement la preuve qu'elle avait affaire à un porc. Nietzsche se leva, muette, mais refusant de reculer devant le maître de l'ordre. L'enlaçant, il l'attira vers lui tel un conquérant sûr de sa force et de son charme viril. Nietzsche se laissa faire avec enthousiasme. Passant les bras autour du cou de taureau de Jagang, elle y passa le Radahan et le referma aussitôt. Le tyran la lâcha et recula d'un pas. Il sentait déjà le pouvoir de l'artefact qui neutralisait sa volonté.
« Qu'as-tu fait ? »
demanda-t-il, sa voix vibrant d'horreur. Un ton qu'elle ne lui avait jamais entendu. Pas d'humeur à discutailler, Nietzsche utilisa le collier pour empêcher son prisonnier de parler. Jagang étant un homme organisé, Olicia devait déjà être en train d'officier dans le jardin de la vie, il ne fallait pas qu'elle soit informée de ce qui venait d'arriver. Jagang n'avait pas pu résister à l'envie de venir chercher Nietzsche. Si les cauchemars que lui avait envoyés Richard s'étaient révélés dévastateurs pour sa santé, ses rêves au sujet de Nietzsche, expédiés par la même personne, avaient transformé sa passion pour la magicienne en une obsession qui menaçait d'avoir raison de sa santé mentale. Jagang la désirait depuis toujours. Désormais, il pensait à elle jour et nuit. Cédant à sa folie, il avait laissé Olicia pour s'aventurer dans le donjon à la recherche de sa dulcinée. Un petit cadeau de Richard. Quand il l'avait enfermée dans cette cellule, sur ordre du sourcier, Nathan avait profité du champ de force, une protection infaillible contre les espions, pour expliquer à la magicienne le plan de son lointain descendant. Richard savait qu'une reddition était inévitable. Ils allaient tous mourir, ça ne faisait aucun doute. Mais il pouvait offrir une ultime proie à son ami, Jagang. Le Radahan était dans la cellule. Anna l'y avait laissé après avoir été emprisonnée un temps par Nathan. C'était probablement ça qu'elle tentait de dire à Nietzsche juste avant d'être tuée. Nathan savait aussi que le collier était dans la cellule. Richard avait trouvé ce moyen pour que Jagang le juste n'échappe pas à la justice de ses adversaires vaincus. Le sourcier n'imaginait pas que ça suffirait à vaincre l'ordre impérial. Jagang était son bras armé, pas son cerveau ni son âme, pour dévaster le monde, la haine devait brûler dans des millions de cœurs. Nietzsche ne se faisait pas plus d'illusions que son ami. Élevée dans les croyances de l'ordre, elle savait à quel point cette idéologie perverse parvenait à dénaturer les notions les plus élémentaires. La souffrance transformée en vertu, l'iniquité présentée comme le bien absolu, la mort parée de l'angélique costume de la salvation. Tous ces mensonges n'avaient qu'un objectif, justifier les crimes des soudards de l'ordre. À la lumière de cette idéologie, le meurtre, le viol et le pillage passaient pour la sainte mission des croisés de l'ordre, une façon d'apporter le salut à l'humanité souffrante. La mort de Jagang ne guérirait pas d'un coup des millions de fanatiques. Comme tous les systèmes de croyance, l'ordre ne dépendait pas d'un seul individu. Avec ou sans le tyran, tout continuerait comme avant. La mort de l'empereur n'arrêterait pas non plus les folles qui avaient activé le sort d'oubli et remis dans le jeu les boîtes d'Orden. Pareillement, elle ne mettrait pas un terme à la souillure des carillons et ne ferait pas disparaître la horde de bouchers qui assiégeait le palais du peuple. Tout cela était écrit et l'histoire suivrait son cours. Mais Richard avait tenu à faire une dernière joie à Nietzsche. Avant de disparaître, elle pourrait souffler la vie de Jagang comme la flamme d'une bougie dans une tempête. Une façon de la remercier et de punir l'homme qui l'avait tant humiliée. Pris au piège, Jagang ne pouvait plus désobéir. Même si son don était affaibli dans l'enceinte du palais, Nietzsche gardait assez de pouvoir pour contrôler un sujet par l'intermédiaire d'un Radahan. Si elle avait voulu, Jagang se serait tordu de douleur sur le sol, mais pour l'instant, il suffisait qu'il lui obéisse au doigt et à l'œil. Dans le couloir, un officier de la première phalange et quelques hommes attendaient le nouveau maître du palais. Tous furent surpris de voir que Nietzsche dominait désormais l'empereur. Le capitaine de la garde du donjon, un colosse, attendait avec les soldats. Très prévenant avec la prisonnière, il avait proposé de lui apporter ce qu'elle désirait. Eh bien, elle venait d'être comblée. « Capitaine Lerner, dit-elle, si vous voulez bien nous montrer la sortie. »«
Avec plaisir, madame, »
répondit l'officier, ravi de voir que la magicienne avait pris le contrôle des opérations. Dans les couloirs, Nietzsche ordonna à Jagang d'ouvrir la marche. Elle le suivit de près, s'assurant qu'il ne parle pas et ne fasse de signe à personne. Bien entendu, il tentait de lutter contre la domination du collier, mais Nietzsche n'avait aucun mal à le contrôler. Malgré toute sa puissance et sa rage, Jagang n'était plus qu'un minable pantin. Partout dans le palais, des bouchers de l'ordre le saluaient sur son passage. Nietzsche ne l'autorisait pas à leur répondre. Habitués à l'arrogance de leur chef, les soudards ne s'étonnèrent pas qu'il les méprise ainsi, même après une grande victoire. Aller du donjon au jardin de la vie n'était pas une petite promenade. Étant en fait un sortilège géant, le palais n'obéissait pas aux règles coutumières de l'architecture. En particulier, on y trouvait fort peu de lignes vraiment droites, car les rues n'étaient jamais de simples formes géométriques. En plus d'être un sort s'étendant sur une incroyable distance, le palais était un lieu habité, avec ses zones résidentielles, ses marchés et une multitude d'autres installations commerciales et administratives. Pour s'y déplacer, il fallait une grande habitude et une paire de jambes infatigables. Lorsque la petite colonne atteignit le niveau où se trouvait le jardin, les premières lueurs de l'aube filtraient déjà des hautes fenêtres à l'est. Nietzsche voulait à tout prix revoir Richard une dernière fois. En interrogeant Jagang, elle avait appris le retour de son ami. L'empereur ignorait comment son adversaire s'y était pris et ça n'avait plus guère d'importance. S'il était là, l'ancienne maîtresse de la mort tenait à croiser son regard pour mieux lui dire adieu. Ainsi, il verrait que Jagang était condamné et ne cueillerait pas les fruits de la guerre impitoyable qu'il avait livrée au Nouveau Monde. Après tant d'héroïques combats, le sourcier méritait bien cette victoire morale. En entrant dans le jardin de la vie, Nietzsche vit que la lumière du soleil commençait à toucher l'autel de granit. Une demi-douzaine de sœurs entouraient Ulyssia debout devant les trois boîtes d'Orden. Même à la lumière du jour, on eût dit trois îlots de néant perdus dans la beauté du monde. Loin de refléter les rayons du soleil, les artefacts les absorbaient comme s'ils avaient voulu les entraîner avec eux dans le royaume des morts. Jagang lutta pour avancer, mais Nietzsche l'en empêcha. Il resterait à l'écart, près des arbres, d'où tous ces hommes penseraient qu'il voulait observer la scène sans être dérangé. Elle aurait pu le tuer en un éclair. Le moment venu, c'était exactement ce qu'elle ferait. Même s'il se doutait qu'il était en danger, ses soudards ne pourraient rien pour lui. Nietzsche vit enfin Richard, magnifique dans sa tenue de sorcier de guerre. Callan se tenait près de lui, calme et silencieuse. S'il avait respecté le champ stérile, elle ne savait toujours rien de l'amour qui les unissait. Avec la tournure des événements, elle mourrait sans savoir la vérité. Avisant Nietzsche, Richard vit que Jagang était près d'elle, un Radahan autour du cou. D'un petit signe de tête, il félicita son ami. Mission accomplie. Ulyssia désigna soudain la boîte qui se trouvait sur sa droite.
C'est celle-là,
annonça-t-elle. Les autres sœurs sourirent triomphalement. Elles allaient pouvoir offrir la magie d'Ordaine à l'empereur. Bien entendu, elles ignoraient qu'il ne serait plus là pour en profiter. Ulyssia souleva le couvercle de la boîte, d'où jaillit une lumière jaune presque liquide comme de la lave en fusion. Son aura enveloppa les sœurs de l'obscurité. Elles jubilaient, ivres de leur extraordinaire succès, même s'ils bénéficieraient à l'ordre, pas aux gardiens. Les idiotes! Jagang n'était même plus en mesure de contrôler leur esprit. Elles étaient libres de faire ce qu'elles entendaient. Si Nietzsche le leur faisait savoir, elles choisiraient de laisser entrer le gardien dans le monde des vivants. En d'autres termes, la magicienne avait le choix entre deux catastrophes. C'était une illusion. Sous le joug de l'ordre, la vie subsisterait tant bien que mal. Sous celui du gardien, il ne resterait que la mort et la souffrance. Nietzsche n'avait aucune envie de vivre assez longtemps pour voir à quoi ressemblerait le nouveau monde engendré par la haine. Mais elle n'avait aucun souci à se faire, car son temps était compté. Jagang mourrait avant elle. C'était déjà ça. Même s'il la précédait seulement de 10 secondes. Jagang le Juste allait enfin connaître la justice des hommes. Tout était accompli. Mais pourquoi Richard souriait-il de toutes ses dents ?